Il est 17h en temps universel, 19h ici à Paris, vous écoutez RFI.
RFI Soir. Juliette Pietraszewski.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Je vous propose de rester avec nous pour les 3 heures d'information à venir. Dans 30 minutes, ce sera le débat du jour. Et si le Rassemblement National n'obtenait pas de majorité absolue à l'Assemblée, c'est en tout cas l'objectif de la gauche et des macronistes qui essaient de faire front en écartant leurs candidats moins bien placés dans différentes circonscriptions avant le second tour des législatives dimanche. Après 2 jours de tractation, les candidatures sont désormais arrêtées. Alors, quelles conséquences cela pourrait-il avoir sur le futur paysage politique français? On en discutera avec mes invités. Les législatives également au menu de mardi politique à 20h10 hors de Paris, avec Franck Alizio, député RN réélu, et puis Rachel Flore Pardo, candidate du camp présidentiel à Paris. À suivre après la première édition d'Afrique Soir. Et à 21h10, votre heure de reportage. Accent d'Europe reviendra notamment sur la relation historiquement compliquée entre l'Allemagne et la Pologne et la façon dont ces deux pays essaient aujourd'hui de se rapprocher. Et puis le grand reportage de ce mardi, ce sera à Chypre, île déchirée depuis 50 ans entre les communautés grecques et turques. Vous avez le programme. On commence d'abord par le grand journal international. Bonsoir Juliette Pietraszewski.
Bonsoir Clotilde, bonsoir à tous.
Et donc à la une de ce journal, Juliette, les législatives.
Depuis 18h, les candidatures sont closes pour le second tour. Triangulaire et désistement étaient au centre de l'attention. On en parlera dès le début de ce journal. Au Kenya, la contestation menée par la jeunesse se poursuit malgré le retrait de la loi finance. Reportage à suivre. Dans l'actualité également, le Panama et les États-Unis passent un accord pour limiter l'immigration illégale. Le Pakistan, victime d'une énorme vague de chaleur. Et puis en Corée du Sud, une pétition pour lancer une procédure de destitution contre le président. On y reviendra.
Et on débute donc ce journal, Juliette, en France, puisque les candidatures pour le second tour des législatives sont closes depuis une heure.
Oui, et plus de 210 désistements ont été décomptés. Alors de qui s'agit-il? Eh bien, des candidats arrivés en troisième position et qualifiés pour le second tour, mais avec un objectif, empêcher le Rassemblement National d'obtenir une majorité absolue. Raphaël Delvolvé, bonsoir.
Bonsoir.
L'objectif de ce front républicain peut-il être atteint?
Alors théoriquement, ce soir, Jordan Bardella s'éloigne de Matignon, car la grande conséquence de ces désistements en cascade, c'est l'effondrement du nombre de triangulaires. Il y en avait plus de 300 au soir du premier tour, dont beaucoup très favorables au Rassemblement National. Le calcul, c'est donc de permettre aux candidats désormais seuls face à l'extrême droite de bénéficier du fameux report de voix. Et ce seront les électeurs de gauche qui seront arbitres des nombreux duels, car majoritairement des candidats Nouveau Front Populaire se sont retirés. Ils sont près de 130 ce soir. Le camp présidentiel a lui fait le choix de s'effacer dans plus de 80 cas.
Mais Raphaël, encore une fois, tout cela est théorique, rien n'est joué et il y a plusieurs inconnus.
Et oui, en tête desquels le comportement des électeurs, principalement de gauche, on l'a dit, rien n'indique qu'ils porteront leur choix sur le camp présidentiel une semaine après avoir voté contre lui. Un cas emblématique dans le Calvados où Elisabeth Borne se retrouve face à un RN après le désistement du candidat LFI, la France Insoumise, qui a longtemps et très durement critiqué l'ancienne Première Ministre, notamment pendant la réforme des retraites adoptée, je vous le rappelle, par 49-3. Le cas inverse pose aussi question, que feront les électeurs macroniste en Seine-Maritime où le candidat du camp présidentiel se retire et laisse un duel LFI-RN sans donner de consigne de vote. Et pour ne rien faciliter, dans les rangs présidentiels, les positions et les consignes de vote sont nombreuses. Certains, comme Gabriel Attal, demandent un barrage simple et net contre l'extrême droite. D'autres, comme Édouard Philippe, appellent à ne choisir ni le RN ni LFI. Si autrefois le barrage à l'extrême droite était massivement suivi, les lignes ont beaucoup bougé, les digues ont parfois sauté depuis la dissolution. Sans oublier le facteur décisif de la participation, impossible à prédire dans cette configuration inédite. Seule possibilité pour connaître l'étanchéité de ce front républicain version 2024, attendre dimanche et les résultats du second tour.
Merci beaucoup pour votre éclairage, Raphaël Delvolvé.
Et puis on reparlera de ces enjeux autour des législatives dans une vingtaine de minutes dans le débat du jour. Dans le reste de l'actualité, nouvelle journée de mobilisation au Kenya.
Près d'une semaine après le retrait de la loi de finances, la contestation se poursuit à l'appel de la jeunesse. À Nairobi, plusieurs centaines de manifestants se sont rendus en centre-ville, mais se sont très vite heurtés aux forces de l'ordre. Gaëlle Alex, tout était mis en place pour éviter les rassemblements.
Dans les rues du centre-ville ce matin, les policiers en tenue anti-émeute sont légion. Le Parlement, les archives nationales, la Cour suprême sont bouclées, ce qui n'a pas découragé Klaus.
Aujourd'hui, on ne proteste plus contre la loi de finances, mais contre le président. Il doit démissionner. Tant qu'on est pacifique, tout ça, c'est conforme à la Constitution. Il ne nous aide pas. Vous entendez les gaz lacrymogènes ?
Très vite, les forces de l'ordre utilisent gaz lacrymogène et canons à eau. Elvis ne voit là que l'application concrète de tout ce qu'il reproche au président.
Notre gouvernement est aveugle. Il dilapide l'argent. Quand on demande nos droits, on nous gaze, on nous tire dessus à balles réelles. On ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il démissionne. On est une nouvelle génération et on se bat pour nos droits.
Le président William Ruto a lancé ce week-end les préparatifs d'un grand dialogue avec la jeunesse. Pour Paul, tout cela n'est que poudre aux yeux.
William Ruto se prétend ouvert au dialogue, mais il n'écoute rien. Il a donné une interview dimanche et toutes nos préoccupations n'étaient que du vent pour lui. Aucune de nos questions n'ont trouvé de réponse. Sur l'usage de nos impôts, sur les assassinats durant les manifestations, même sur le déploiement de l'armée.
La génération Z a prévu une semaine d'action qui devrait culminer dimanche dans une grande manifestation. Gaëlle Lalex, Nairobi, RFI.
Il est midi 6 au Panama. À peine investi hier, le nouveau président du pays, José Raúl Mulino, a annoncé sa volonté, Juliette, de ne plus faire du Panama une zone de transit pour les migrants.
Oui, dans son premier discours, le chef de l'État a voulu être clair. L'objectif est de fermer le passage du Darién pour limiter l'immigration illégale. Dans la foulée, il a même signé un accord avec le gouvernement américain sur le sujet. Le passage du Darién est en effet situé dans la jungle, frontière entre la Colombie et le Panama, et des milliers de migrants l'empruntent chaque année, tout ça sous la menace de bandes criminelles pour tenter de rejoindre les États-Unis. On y revient avec Marine Le Beg.
Argent contre rapatriement. Cet accord prévoit que les immigrés arrivés clandestinement au Panama par la jungle du Darién soient placés dans un avion direction leur pays d'origine. Des Vénézuéliens, Équatoriens, Colombiens ou Chinois rapatriés aux frais de Washington. Les États-Unis s'engagent à payer et s'évitent ainsi l'accueil de tous ceux qui espèrent rejoindre leur territoire. Un accord qui permet à José Raúl Mulino de répondre à une promesse de campagne, comme il l'a réitéré hier dans son discours d'investiture.
Je ne permettrai pas que le Panama soit une voie ouverte pour des milliers de personnes qui entrent illégalement dans notre pays avec le soutien de toute une organisation internationale liée au trafic de drogue et au trafic d'êtres humains.
Le nouveau président panaméen qui promet de fermer le passage du Darién. Mais comment clôturer 260 km de jungle inhospitalière ? José Raúl Mulino ne l'a pas précisé. L'an dernier, 500 000 de migrants, hommes, femmes et enfants, ont risqué leur vie dans cette traversée du Darién. Et ils sont déjà près de 200 000 depuis le début de cette année.
Marine Le Beg, l'ouragan Beryl a fait au moins 4 morts dans les Antilles et notamment dans l'archipel anglophone de Saint-Vincent et les Grenadines. Le phénomène se déplace vers la Jamaïque à présent. Hier soir, le Centre national américain des ouragans avait à nouveau classé l'ouragan en catégorie 5, la plus élevée pour décrire l'intensité des tempêtes. Cela correspond à des vents supérieurs à 252 km/h et à des effets potentiellement catastrophiques.
Au Pakistan, une nouvelle vague de chaleur s'abat depuis plus d'une semaine.
Karachi, la capitale économique du pays, est particulièrement touché. Le thermomètre affiche près de 40 degrés Celsius, mais en raison d'un fort taux d'humidité, la température ressentie par les 15 millions d'habitants de la ville avoisine les 55 degrés. Selon la fondation EDI, principale ONG caritative du Pakistan, la chaleur fait de nombreuses victimes, les hôpitaux sont débordés et les morgues sont pleines. Zora Youssouf est la présidente de la Commission des droits de l'homme au Pakistan. Elle dénonce les coupures de courant qui touchent avant tout les quartiers pauvres de Karachi.
De nombreux quartiers subissent des coupures de courant quotidiennes qui durent 12 à 14 heures, voire plus. Cela concerne exclusivement les quartiers pauvres et ceux de la classe moyenne. Leurs habitants manifestent d'ailleurs tous les jours. Certes, il y a un problème de pénurie d'électricité, mais à Karachi, la compagnie d'électricité continue de fournir le courant aux quartiers qui payent régulièrement leurs factures. En revanche, dans les quartiers pauvres, où certains clients ont du retard dans leur paiement, la compagnie procède à une sorte de punition collective. Elle coupe le courant dans des quartiers entiers, pas seulement pour les foyers qui ne payent pas leurs factures. La conséquence, c'est que les habitants de ces quartiers n'ont plus aucun répit face aux températures extrêmes. Et cela contribue au nombre très élevé de décès dus à cette vague de chaleur.
Des propos recueillis par Stéphanie Schuller. Au Cambodge, 10 militants et écologistes ont été jugés à des peines de prison allant de 6 à 8 ans. Décision aujourd'hui de la justice cambodgienne. C'est un coup dur pour la société civile, dénoncent des défenseurs des droits humains. Accusés de complot contre l'État, les 10 militants, sans exception, ont plaidé non coupables. Trois d'entre eux étaient également poursuivis pour lèse-majesté. Selon les militants, les accusations étaient motivées par des raisons politiques. Un avocat a indiqué soupeser les possibilités d'appel. Les militants en question sont notamment lauréats du Right Livelihood Award, surnommé le prix Nobel alternatif, un prix que Greta Thunberg et Fridays for Future avaient reçu en 2019. En Corée du Sud, une pétition pour lancer une procédure de destitution contre le président sud-coréen a collecté près de 950 000 signatures. Déposée sur le site de l'Assemblée nationale, le document révèle ainsi l'impopularité du président conservateur. Il est à la tête du pays depuis 2 ans, c'est Liu Fioriti.
Une pétition qui provoque un tel engouement que depuis samedi, le site de l'Assemblée nationale de Corée n'est plus accessible. 950 000 signataires d'une pétition lancée sur le site de l'Assemblée et qui pourrait bien avoir un véritable impact politique. En effet, le Parlement a l'obligation d'étudier en commission toute pétition rassemblant plus de 50 000 signatures. Arrivé en 2022 à la présidence sud-coréenne, le conservateur Yoon Suk-yeol n'a eu de cesse de voir sa popularité chuter. Scandale à répétition, affaires judiciaires et défaites cuisantes aux législatives, le président et son gouvernement n'arrive décidément pas à convaincre. Selon les derniers sondages, Yoon Suk-yeol ne reçoit que 21% d'opinions favorables, le plus bas depuis le début de son mandat. Reste à voir si l'opposition se saisira de cette pétition pour lancer une procédure judiciaire contre le président, ce qui dans tous les cas ne risque pas d'aboutir faute de réels chefs d'accusation. Cette pétition a tout de même le mérite de montrer le malaise politique que traverse la Corée du Sud. C'est Le Fioretti, Séoul, RFI.
Dans l'actualité internationale également, la situation à Gaza. L'armée israélienne a notamment bombardé le sud du territoire. Elle a à nouveau émis des ordres d'évacuation aujourd'hui. Depuis près de 9 mois maintenant, la bande de Gaza est dévastée par la guerre. Il y a désormais 1,9 million de personnes déplacées selon la coordinatrice humanitaire de l'ONU pour le territoire. Et selon le ministère de la Santé du Hamas et son dernier bilan, près de 37 925 personnes sont mortes dans le territoire palestinien depuis le début de ce conflit. En parallèle, le mouvement islamiste libanais, le Hezbollah, a annoncé avoir lancé des dizaines de roquettes sur le nord d'Israël aujourd'hui. Une riposte à la mort d'un civil dans une frappe aérienne israélienne sur un village frontalier dans le sud du pays, précise le mouvement.
Et puis, c'est une affaire que RFI a suivie en France. Juliette, Moussa Sako a finalement été expulsé vers le Mali.
Oui, après une deuxième mobilisation des passagers dans un vol Paris-Bamako ce mardi, le jeune homme de 25 ans, arrivé en France alors qu'il était enfant, était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire faute de titre de séjour valide. Il y a 4 jours, grâce à la protestation des voyageurs, Moussa avait pu être ramené au sol et renvoyé au centre de rétention administratif. Mais aujourd'hui, la police aux frontières est directement intervenue pour faire pression sur les contestataires. Amélie Beaucourt.
Ceci aura pour conséquence un placement en garde à vue et la perte du billet aller-retour.
Vous ne pouvez pas filmer, monsieur.
Je vous remercie de votre attention.
Ce mardi après-midi, un avertissement diffusé dans les haut-parleurs d'un avion pour Bamako tente de dissuader les passagers qui refusent de s'asseoir. Pour la deuxième fois en 4 jours, ils ont été invités à retarder le vol pour protester contre l'expulsion de Moussa, 25 ans, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Si l'appel a permis de débarquer le jeune homme vendredi dernier, la pression de la police aux frontières a cette fois eu raison du mouvement de solidarité. Avant l'embarquement, des petits papiers distribués par la PAF donnent le ton. Le fait d'empêcher le décollage d'un appareil est un délit punissable de 5 ans d'emprisonnement et 18 000 euros d'amende. Bloqué au sol pendant plus d'une heure, le moteur de l'avion se met finalement en route alors que certains passagers restent debout en signe d'opposition. Moussa Sako est donc bel et bien expulsé vers son pays natal, pays dont il dit ne rien connaître. Arrivé en France à l'âge de 5 ans, il vivait à Montreuil avec sa famille. Il a interdiction de revenir sur le territoire pendant au moins 3 ans.
Et puis cette nouvelle dans les médias français, Altice Média, la maison mère de BFM TV, a été rachetée par le géant du fret maritime CMA-CGM. On y revient avec Agnieszka Kumor.
L'armateur possède déjà plusieurs titres de presse. Parmi eux, le quotidien La Provence, acquis en 2022, ou encore le quotidien économique La Tribune, racheté en 2023. Cette ascension rapide suscite des craintes sur le plan de l'indépendance. Citons cette grève des journalistes de La Provence en mars dernier pour protester contre la mise à pied du directeur de la rédaction. Le traitement de la visite du président Emmanuel Macron à Marseille n'avait pas plu au propriétaire du journal. Quant à BFM TV, numéro 1, il y a peu de l'information continue en France, la chaîne vient de se faire doubler par CNews, filiale de Vivendi du milliardaire ultra-conservateur Vincent Bolloré. Le très discret patron de CMA-CGM, Rodolphe Saadé, refuse d'être qualifié de mania de la presse, mais admet volontiers une approche industrielle des médias. On découvre un secteur, dit-il, et on monte en puissance. Le rachat de BFM TV et de RMC lui permettra de changer d'échelle dans ce domaine.
Agnieszka Kumor, et c'est la fin de ce journal, Clotilde.
C'était le grand journal du soir. Merci beaucoup, Juliette Pietraszewski. 19h15 sur RFI. Restez avec nous, on passe le début de soirée ensemble. On va évidemment reparler des législatives en France, de l'éventuelle arrivée au pouvoir du Rassemblement National, ça ce sera pendant le débat à 19h30, mais aussi de ce que cette arrivée du RN pourrait changer dans la politique environnementale française, ça ce sera dans quelques minutes avec un journaliste du média Politico. Et puis on évoquera aussi la guerre dans la bande de Gaza qui menace de s'étendre jusqu'au Liban, reportage à suivre à la frontière avec Israël, avec des casques bleus des Nations Unies qui sont en mission sur place, mais d'abord les sports. Et c'est avec Babacar Diarra, bonsoir.
Bonsoir Clotilde.
Alors d'abord le Tour de France cycliste et le favori qui reprend les commandes au classement général à l'occasion de la toute première arrivée sur le sol français.
Tadej Pogacar a fait régner sa loi dans les lacets du col du Galibier puis jusqu'à la ligne d'arrivée à Valoir en Savoie en s'adjugeant la quatrième étape tout en prenant 50 secondes d'avance sur son principal rival, le Danois Jonas Vingegaard. Le Slovène a récupéré le maillot jaune et frappé un grand coup, lâchant tous les outsiders. Remco Evenepoel y compris. Arrivé deuxième de l'étape, le leader belge de l'équipe Soudal Quickstep n'a rien pu faire pour suivre le rythme de Pogacar.
En général, j'avais des bonnes jambes. Bonne étape pour moi, pour l'équipe. Puis l'attaque de Tadej était assez sévère. Donc, on connaît ses qualités. Quand il attaque, c'est toujours vraiment explosif. Donc, j'ai essayé d'y aller, mais c'était clair que j'avais pas la même vitesse dans les jambes que lui et Jonas non plus, donc c'est clair que Tadej c'était le meilleur aujourd'hui. Et puis le début de la descente, j'ai pas fait un très bon boulot parce que j'ai fait quelques erreurs avec la route qui était mouillée, je le savais, mais bon, j'ai pris des risques pour revenir sur Jonas et je l'ai presque payé cash parce que j'ai glissé 2-3 fois. Donc là j'ai perdu un peu de confiance dans les virages après qui suivaient, mais puis je suis rentré avec Rodriguez, Primoz et Ayuso, donc c'était plutôt pas mal et puis un bon sprint pour la deuxième place, donc j'ai essayé.
Remco Evenepoel, deuxième du classement général du Tour de France, au micro de France Télévisions. Demain, la cinquième étape mènera les coureurs de Saint-Jean-de-Maurienne à Saint-Vulbas sur 177 500
km. En football, le dernier quart de finale de l'Euro sera connu dans la soirée.
Il dépendra de l'issue des matchs du jour, dont celui en cours à Munich entre la Roumanie et les Pays-Bas. Pour le moment, ces derniers mènent au score 1-0 grâce à la superbe ouverture du score de l'attaquant de Liverpool, Cody Gakpo. Une belle réaction pour les Néerlandais, troisième du groupe de la France.
Groupe qui avait été dominé par l'Autriche en Babacar.
En effet, cette sélection avait terminé première de poule devant les Bleus, ce qui lui donne forcément des ailes et des envies de marquer l'histoire. Au siècle dernier, l'Autriche avait connu les demi-finales du Mondial, mais elle n'a jamais disputé de quart dans un Euro. Une éventuelle première passera par une qualification ce soir face à la Turquie, une équipe qui leur réussit plutôt bien. En mars dernier, l'Autriche avait giflé 6-1 les Turcs lors de leur dernière confrontation en amical, un match sur lequel insistera forcément le sélectionneur italien de la Turquie, Vincenzo Montella, dans sa causerie d'avant-match.
On a déjà joué contre l'Autriche il y a plusieurs mois. Je pense que c'est une équipe très complète, peut-être la meilleure de la compétition. C'est une équipe qui presse énormément et qui occupe bien le terrain. Elle est excellente en transition. La sélection autrichienne me fait penser à une équipe de club, car elle peut s'adapter à n'importe quelle situation. C'est pour cela que les Autrichiens sont très complets, selon moi.
Vincenzo Montella, sélectionneur de la Turquie, avant de défier l'Autriche ce soir.
Et du gazon allemand, passons au gazon londonien. Tennis avec la suite du premier tour de Wimbledon. Et Novak Djokovic a déroulé avec son entrée dans le Grand Chelem.
Le Serbe n'a pas dépassé les deux heures face au Tchèque Vite Kopriva, battu 6-1, 6-2, 6-2. Côté français, Giovanni Impecci, Péricard s'est qualifié en 5 manches face à l'Américain Sébastien Korda, tandis qu'Arthur Fils mène actuellement 2-7-0 face au Suisse Dominique Stricker. Chez les dames, la tenante du titre, Markéta Vondrousova, prend la porte. Elle a cédé en 2-7 la Tchèque 6-4, 6-2 contre une Espagnole de 21 ans, Jessica Buzas-Manet. Neiro, la finaliste des deux derniers Wimbledon, Ons Jabeur, lancera à elle son tournoi dans la soirée contre la japonaise Moyuka Uchijima.
Et puis en basket, la course aux quatre derniers tickets pour le tournoi olympique messieurs est lancée depuis ce matin.
Quatre tournois de qualification sont disputés cette semaine avec 6 équipes en lice à chaque fois pour un seul élu. À Athènes, en Grèce, la République dominicaine a bien démarré avec une victoire 90-77 face à l'Égypte, tandis que la soirée va voir la Slovénie du finaliste NBA Luka Doncic face à la Croatie dans le choc du jour. Du côté de Valence, en Espagne, la Roja, grande favorite devant son public, va débuter avec un duel face au Liban. En attendant, ce sont en ce moment les Bahamas, outsider sérieux des Espagnols, qui renversent la Finlande. Et puis à Riga, en Lettonie, le Brésil a dominé le Monténégro, tandis que les locaux seront opposés ce soir à la Géorgie. Le dernier TQE sera lancé plus tard à Porto Rico avec Italie-Bahreïn et Mexique-Lituanie.
C'était le journal des sports. Merci beaucoup, Baba Cardiera. À 5 jours du second tour des législatives en France, la gauche et le camp présidentiel ont donc passé les dernières 48 heures à réfléchir à la mise en place d'un front républicain après la victoire du Rassemblement national au premier tour. On en reparlera au cours du débat dans un petit quart d'heure, mais dans tous les cas, en cas de victoire du RN dimanche, eh bien le parti d'extrême droite pourrait donc obtenir une majorité, reste à savoir si elle sera absolue ou relative à l'Assemblée nationale, et donc éventuellement mettre en œuvre une partie de sa politique, notamment concernant les enjeux environnementaux. Bonsoir Nicolas Camus.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste pour Politico. Vous publiez justement un article sur ce que l'arrivée du RN au pouvoir changerait sur la politique environnementale de la France. Alors, c'est pas le domaine de prédilection du parti, mais quelles sont tout de même les principales mesures, Nicolas, que souhaiterait mettre en place le RN à ce niveau-là ?
Alors, il y en a plusieurs, dont un certain nombre sont en plus contraires au droit européen. Il y a notamment le moratoire que le parti d'extrême droite souhaite instaurer sur les nouveaux projets d'éoliennes, qui est contraire aux objectifs de production d'énergie renouvelable fixés au niveau européen et que la France doit atteindre. Il y a également la baisse de la TVA sur les énergies, qui est une décision que les États membres ne peuvent pas prendre de manière unilatérale. Et il y a aussi leur proposition de sortir des règles du marché de l'électricité. Une proposition un petit peu floue et compliquée à mettre en place et qui surtout voudrait dire que les autres pays membres pousseraient a priori pour vendre leur énergie à des prix élevés pendant l'hiver lorsque la production est faible, ce qui ferait au final augmenter les factures à terme au lieu de les faire diminuer.
Le problème effectivement c'est que ça risque de brouiller la France avec Bruxelles toutes ces mesures.
Ça diminuerait l'ambition climatique au niveau européen parce que l'Europe perdrait un poids lourd sur le plan de l'ambition climatique. Si le futur gouvernement français ne faisait pas de la lutte contre le changement climatique une priorité, ce qui, comme vous l'avez noté, n'est pas le cas du Rassemblement national, et en plus, ça engagerait le gouvernement français dans de multiples confrontations avec Bruxelles, puisque, comme on l'a noté, le programme du RN est contraire au droit européen sur plusieurs points.
On l'imagine, ça inquiète aussi certains de nos voisins, du coup, cette arrivée du Rassemblement national en France.
Effectivement, moi-même et mon collègue Victor Jack, qui lui travaille à Bruxelles, avons pu discuter avec plusieurs diplomates européens qui nous ont confié que l'arrivée éventuelle du Rassemblement national au pouvoir inquiétait nos partenaires européens, notamment sur le plan de l'ambition climatique.
Ça concernerait notamment le pacte vert, c'est ça que vous évoquez dans votre article.
Exactement. Alors, concernant le pacte vert, s'il n'y a pas de risque que l'existant soit détricoté, il y a en revanche un risque que la suite du pacte vert, les textes qui doivent encore être adoptés, soient plus ou moins mis à l'arrêt. En fait, les décisions sur les textes du pacte vert se prennent au sein du Conseil de l'Union européenne, qui réunit les gouvernements des États membres et qui sont représentés par leurs ministres. Et pour qu'un texte soit adopté, il faut une majorité qualifiée, c'est-à-dire au moins 55% des États membres, qui représentent au moins 65% de la population de l'Union européenne. Or, en s'alliant avec des pays qui ont soit des gouvernements d'extrême droite, soit des gouvernements de coalition avec l'extrême droite, par exemple l'Italie, la Finlande, la Hongrie ou les Pays-Bas, cela donnerait une minorité de blocage, en fait, sur les textes du pacte vert, ce qui empêcherait de futures avancées sur le plan environnemental.
Pour conclure, Nicolas Camus, est-ce qu'on pourrait dire de façon générale que l'arrivée du RN en France pourrait même jusqu'à peut-être remettre en cause les objectifs fixés par l'accord de Paris de 2015 ?
Alors, remettre en cause les objectifs de l'accord de Paris, non. Par contre, parce qu'ils ont déjà été fixés, les objectifs 2035.
Oui, les repousser plutôt, oui, effectivement.
De réduction des émissions ont déjà été fixés aussi. Par contre, ce qui est vrai, c'est que l'Union européenne doit se prononcer sur des objectifs de réduction des émissions pour 2040. Ça n'a pas encore été acté. Et on ne sait pas trop ce qu'il en adviendra si jamais il y avait, comme je l'expliquais, une minorité de blocage d'une alliance de gouvernement d'extrême droite au sein du Conseil de l'Union européenne. C'est plutôt sur l'avenir, en fait, qu'il y a un risque.
Eh bien, écoutez, tous ces enjeux sont donc à lire dans votre article, Nicolas Camus, apparaît donc en anglais, je précise, sur Politico. Merci à vous d'être intervenu ce soir sur RFI.
Merci.
Merci beaucoup. Et pendant ce temps, bien loin de la France, la guerre se poursuit dans la bande de Gaza. Et un autre front à la frontière, cette fois-ci entre le Liban et Israël, menace de faire éclater une guerre régionale. Depuis le lendemain des attaques du Hamas le 7 octobre 2023, on observe des affrontements quotidiens entre l'État hébreu et le Hezbollah, mouvement chiite allié de l'Iran. À la frontière, plus de 10 000 casques bleus assurent une mission de maintien de la paix au sein de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL. Leur mandat ne leur permet pas d'intervenir, mais seulement de surveiller. Et ils se retrouvent aujourd'hui pris en étau entre les feux croisés d'Israël et du Hezbollah. Notre correspondante au Liban, Sophie Guignon, a pu suivre le contingent espagnol de la FINUL qui compte 670 soldats. C'était lors d'une patrouille le long de cette frontière ultra-sensible.
La zone de surveillance de la force intérimaire des Nations Unies au Liban commence au sud du fleuve Litani. Nous embarquons à bord d'une patrouille dirigée par le lieutenant-colonel espagnol José Irizarry.
On va à Kfar Kila.
Direction la ligne bleue, la frontière entre le Liban et Israël, au cœur des affrontements entre les combattants du Hezbollah et l'État hébreu.
Les patrouilles sont la seule manière d'empêcher une armée irrégulière de s'établir ouvertement dans la région, ce qui augmenterait le risque d'une guerre ouverte.
Par la fenêtre, nous apercevons une colonne de fumée provenant d'un bombardement israélien.
Ça, c'est la partie sud de Riyam. Le risque principal, c'est qu'une bombe tombe à proximité de la patrouille s'il y a une attaque.
Les casques bleus nous emmènent plus loin, le long de la frontière, à Kfar Kila. Les immeubles en ruine défilent.
C'est le village qui a été le plus attaqué par les Israéliens. Il n'y a plus personne ici.
Soudain, le premier véhicule blindé de la patrouille fait demi-tour. Un ordre vient d'arriver, il faut se réfugier immédiatement dans la base la plus proche.
Bien reçu. Niveau d'alerte 2.
Que se passe-t-il ?
En général, c'est à la demande de l'armée israélienne.
Quelques minutes après notre départ, Kfar Kila sera de nouveau bombardé par Tsar. De retour en lieu sûr, le chef de la base, le capitaine Alfonso Albar, nous guide vers un point de surveillance. Les casques bleus sont les observateurs impuissants de cette guerre qui ne dit pas son nom.
Il y a de tout, des attaques aériennes, des attaques d'artillerie, des mortiers, le feu, des mitrailleuses, il y a de tout.
Qu'est-ce qu'on peut faire ? Nous devons essayer d'éviter la guerre, mais on ne peut pas imposer la paix.
Malgré la présence de 10 000 casques bleus, cette zone frontalière est aujourd'hui une poudrière qui pourrait enflammer le Moyen-Orient. Sophie Guignon, de retour de Kfar Kila, RFI.
Le reportage que vous pouvez retrouver sur le site internet et l'application Pure Radio de RFI. Il est presque 19h29 à Paris, à suivre dans une minute le débat du jour.
Priorité santé.
Chantal Laureau vous invite à poser vos questions sur le thème de demain.
Comment changer le regard sur le bégaiement? Quelle prise en charge pour la personne qui en souffre? Comment l'aider à être comprise et à s'accepter telle qu'elle est?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Dans le club de C'est pas du vent, les journalistes de RFI en français et en langues étrangères et ceux d'autres médias reviennent sur les sujets environnementaux qui les ont marqués. Ils partagent les coulisses de leur travail et commentent les films produits par les vidéastes du réseau Hip-Hop.
C'est pas du vent.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.